l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Aujourd'hui, la Corée du Sud célèbre le jour de Samhyeol, l'anniversaire du mouvement indépendantiste du 1er mars 1919 sous le joug colonial japonais. Pour ouvrir notre édition du jour, nous allons parler de la transformation en salle d'exposition de la maison d'Albert W. Taylor, qui a fait connaître à l'époque cette lutte du peuple coréen contre l'occupation japonaise dans le monde entier. Restez branchés, à tout de suite. La maison d'Albert W. Taylor, qui a pris part au mouvement d'indépendance coréen du 1er mars 1919, a retrouvé sa forme originale 80 ans plus tard et a été réaménagée comme un espace d'exposition. Le gouvernement métropolitain de Séoul a annoncé le 25 février que Tilkusha, la maison de M. Taylor, serait ouverte au public aujourd'hui, le 1er mars, environ 80 ans après sa déportation en 1942 par le Japon colonial. Albert Taylor embarque pour le royaume de Joseon en 1896 pour travailler comme correspondant intérimaire de l'Associated Press AP. Il est celui qui a rapporté le mouvement du 1er mars et le massacre de Tiamli pour informer la communauté internationale de la barbarie de l'impérialisme japonais. En particulier, lorsqu'il attendait la naissance de son fils à l'hôpital Sèvres, il a découvert une copie de la déclaration d'indépendance cachée sous le lit et s'en est fait l'écho par le biais de médias étrangers. Sa maison Tilkusha, située dans le quartier Hengchon, dans l'arrondissement de Chungno à Séoul, signifie « Palais de la joie ». Une maison construite en 1923 en briques rouges, dans un style occidental pendant son séjour en Corée, a également été désignée patrimoine culturel numéro 687 en août 2017. Afin de la reconstituer, la ville de Séoul a commencé les travaux en 2018 en se basant sur des recherches de documents historiques en coopération avec le ministère de la Stratégie et des Finances, l'administration du patrimoine culturel et la mairie de Chungno. Le hall d'exposition Tilkusha se compose d'un sous-sol et de deux niveaux au sol, où il y a un salon autrefois habité par le couple Taylor. Le reste de l'espace a été dédié à six salles d'exposition qui mettent en valeur la vie de la famille Taylor en Corée et ses activités dans les médias. Jennifer L. Taylor, sa petite-fille, a assisté à la cérémonie d'ouverture tenue vendredi dernier. Elle a déclaré que l'inauguration de ce hall d'exposition donnerait une occasion aux Occidentaux qui ont contribué à l'indépendance du pays du matin clair de se faire mettre en lumière. Vous pouvez le visiter du mardi au dimanche après une réservation en ligne à l'avance. Un ancien document décrivant l'évolution du mouvement d'indépendance nationale dans la région de Changyu à Kimhae il y a 102 ans et l'emprisonnement et le procès d'un fils qui a dirigé le mouvement a été restauré avant d'être publié. Le 25 février, les archives nationales ont annoncé avoir rendu public, militant Kim Seung-tae, des mémoires sur le mouvement indépendantiste dans la ville de Kimhae, dans la province de Gyeongsang du Sud, à l'occasion de la célébration du 102e anniversaire de Samhyeol. Il s'agit d'un document écrit par Cho Sun-nam, la mère de Kim, sur ses expériences personnelles pendant environ un an, avant et après le mouvement du 1er mars 1919, sous une forme littéraire pratiquée par les femmes chez les lettrés nobles de l'époque de Joseon. En 1919, le mouvement déclenché à Séoul s'est étendu à chaque région. Le 12 avril, plus de 3000 personnes y ont participé à Changju, dont 3 sont mortes et 12 ont été emprisonnées. Kim a pris la tête d'une manifestation pour l'indépendance nationale avec le drapeau coréen Taegeuki sur le marché du quartier, avant d'être condamné à 12 ans de prison et d'être consigné en 1990 sur la liste des funérailles de compatriotes engagés dans la Fondation nationale. La situation tendue à l'époque, y compris l'apparition des manifestations, l'emprisonnement, le procès et l'atmosphère après la libération, sont retranscrits dans ce document d'un total de 37 pages. Celui-ci, qui est écrit en coréen avec de l'encre noire, a été gravement détérioré avec le temps. Les couvertures ont été déchirées et certaines lettres étaient illisibles. Ainsi, la ville de Kimé a demandé aux archives nationales sa restauration et ils ont terminé le travail en 3 mois. Tout d'abord, les caractères ont été identifiés à l'aide d'une source de lumière infrarouge et ultraviolette. Ensuite, l'opération manuelle pour éliminer de l'encre maculée par un dispositif d'aspiration et l'eau filtrant a été effectuée à plusieurs reprises. Choi Jae-hee, le directeur des archives nationales, a déclaré qu'il était content de pouvoir restaurer un document reconnu littéralement et historiquement et qu'il souhaitait que la publication de cet enregistrement permette de réfléchir sur l'esprit et le sens du mouvement pour l'indépendance. Les internautes sud-coréens encouragent les manifestations qui se déploient en Birmanie. Ils partagent sur des réseaux sociaux des photos de rassemblement des manifestants birmans contre le coup d'état militaire qui se poursuivent depuis plus de 4 semaines. Il semble que les sud-coréens expriment leur souhait d'un succès du mouvement démocratique, tout comme la Corée du Sud est parvenue à la démocratisation du pays dans les années 80. Sur un site communautaire, une publication intitulée « La Birmanie se bat » a été affichée avec des photos de militants réunis à travers tout le pays, que ce soit à Naypyidaw, la capitale administrative, Mandalay, la 12e ville du pays, ou Rangoon, l'ancienne capitale. L'auteur de cette publication a noté qu'il avait reçu toutes ces photos d'un ami qui vient de Birmanie et que le village où il a fait du bénévolat a été incendié et a fait l'objet de pillages de criminels libérés par l'armée. Il a ajouté qu'en tant que Coréen, nous nous souvenons de la lutte pour la démocratie et que la Corée a une histoire récente s'étalant du mouvement de démocratisation de 1987 jusqu'à la révolution aux bougies de 2016. Il a appelé les citoyens sud-coréens à soutenir cet esprit démocratique birman, bien que nous ne puissions pas faire grand-chose pour eux. Des commentaires ont afflué en dessous de ce texte, encourageant la victoire du peuple birman et la démocratie. Certains ont incité les autres à partager cette publication comme un encouragement de la part de la Corée. Sur un autre forum internet, on trouve des photos d'étudiants de l'école de coréen agenouillés devant l'ambassade de Corée au Myanmar pour solliciter son intérêt et son soutien. Shea Mine, étudiante à l'université de Rangoon, qui apprend le coréen à l'Institut Sejong depuis 4 ans, a été contactée dans un programme radio en Corée sur la chaîne TBS. Elle a expliqué qu'elle a appris que la Corée a pu se développer sur la base de la démocratie et qu'elle croyait obtenir de l'aide du pays du matin clair. C'est pour cela qu'elle a décidé de se présenter devant l'ambassade de Corée. Par ce contact téléphonique avec la radio, elle a supplié le peuple coréen d'incriminer les actes anti-humanitaires du régime putschiste et a demandé un soutien total pour le gouvernement élu par le vote.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Kim Hong-ju ce lundi 1er mars. Les adolescents sud-coréens ont pris 2,5 repas par jour en moyenne en 2020. D'après une enquête menée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, il s'avère qu'ils ont moins mangé que l'année précédente. La raison pour laquelle ils ont sauté des repas était qu'ils n'avaient pas l'envie ou qu'ils n'avaient pas le temps. Ces résultats montrent que ce n'est pas seulement les adultes qui ont l'habitude de ne pas manger régulièrement, mais que les adolescents également étaient de plus en plus nombreux à adopter cette habitude alimentaire. Selon les résultats de l'enquête sur l'alimentation de la population sud-coréenne en 2020, publiée le 24 février par le ministère compétent, le nombre moyen de repas des adolescents par jour était de 2,52, un peu moins que l'année précédente, à savoir 2,72. Elle a été menée auprès de 1000 adultes et 600 adolescents dans 17 villes et provinces de tout le territoire. Alors pourquoi ont-ils sauté des repas? Parce que je n'avais pas envie de manger était la réponse majoritaire avec 37,1%. Parce que je n'ai pas eu le temps a emporté 35,4% des voix. Et parce que j'avais la flemme a compté 13,6%. Si on compare avec l'habitude des adultes sud-coréens, ils ont mangé 2,41 une fois par jour en 2020, soit une baisse par rapport à l'année précédente, à savoir 2,7 fois. En ce qui concerne la question du respect de l'une des recommandations diététiques pour toute la population émise par le gouvernement, dès que manger moins salé, moins sucré et moins gras, 60,6% des adultes ont répondu qu'ils la pratiquent au quotidien, alors que seulement 43,8% des adolescents le font. Lorsqu'on leur a demandé s'ils mettent en pratique la recommandation de boire suffisamment d'eau au lieu des boissons sucrées, 59% des adultes et 46,3% des adolescents ont répondu par affirmative. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a souligné qu'il semblait nécessaire d'améliorer les habitudes alimentaires par l'éducation sur le régime alimentaire, en affirmant que le taux de respect de ces deux conseils chez les jeunes est très faible. Il est aussi à noter que la satisfaction à l'égard de leur alimentation a augmenté chez les deux groupes, à savoir à 63,4% pour les adultes et 61,9% pour les adolescents. Ce phénomène peut s'expliquer en quelque sorte par le retour de la pratique familiale de manger ensemble à la maison en raison de la distanciation sociale. La ville de Séoul soutient à partir d'aujourd'hui, le 1er mars, les propriétaires de chiens pour l'enregistrement des animaux avec la puce intégrée dans leur corps. La municipalité de Séoul a fait savoir la semaine dernière qu'elle subventionnerait le service d'enregistrement des animaux qui coûte en général 40 000 à 80 000 won, soit environ 30 € à 60 euros. Dans ce cadre, les citoyens séouliens n'ont plus qu'à payer seulement 10 000 won, soit environ 7,40 € pour insérer une puce dans leurs animaux de compagnie. Cela fait 3 ans que le gouvernement métropolitain de Séoul, le Conseil des contributions sociales et l'Association des vétérinaires de Séoul financent ce projet. Cette année, les premiers 32 000 chiens élevés par des citoyens habitant dans la capitale bénéficieront de cette subvention sur la base du premier arrivé, premier servi. L'enregistrement d'animal consiste à insérer entre les omoplates par voie sous-cutanée, un dispositif d'identification sans fil de la taille d'un grain de riz, à savoir une micro-puce. Les citoyens séouliens peuvent contacter le centre d'appel en charge de l'assistance à l'enregistrement des animaux pour obtenir des informations. Nous vous rappelons qu'en Corée du Sud, en vertu de la loi sur la protection des animaux, les chiens de plus de 2 mois élevés dans une maison ou dans une habitation de type maison font l'objet de l'enregistrement. Il est donc obligatoire de faire porter un dispositif à l'extérieur ou à l'intérieur du corps. En cas d'infraction, les propriétaires de chiens en question seront condamnés à une amende de 200 000 won pour le premier cas, soit environ 1 483 euros, 400 000 won pour le second et 600 000 won pour le troisième. « un navire de croisière sera mis en service en 50 ans sur l'île de Nodel à Séoul. À partir du 6 mars, une voie entre Yeouido, la plus grosse île de Séoul sur le fleuve Han, et l'île de Nodel, située plus à l'est de celle-ci, sera ouverte du mercredi au dimanche. Après sa transformation en un complexe culturel en 2019, l'île de Nodel devrait offrir un nouvel espace de repos pour davantage de citoyens à l'horizon de l'ouverture des services de croisière. La ville de Séoul a fait savoir le 23 février que les navires de croisière desserviraient les deux îles régulièrement en partant de la jetée de Yeouido à 19h30. Ensuite, il fera un tour de la fontaine en couleur d'arc-en-ciel au clair de lune et arrivera à l'embarcadère de l'île de Nodel vers 20h10. Après une pause de l'ordre de 15 minutes, il retournera au pont de départ. Les usagers peuvent débarquer sur l'île de Nodel pour admirer la vue nocturne du fleuve Han ou se déplacer à Yeouido, située à une distance de 10 minutes. L'île de Nodel était une ancienne plage de sable blanc reliée à Yongsan jusqu'à la fin des années 60, où les citoyens se baignaient en été et faisaient du patin en hiver. En 1968, le développement du fleuve Han et la construction de la route de Gangbyeon du Nord ont été menées en la transformant en île fluviale. Depuis, elle a été négligée pendant plusieurs décennies en étant utilisée comme un jardin potager. Et ce n'est qu'en 2019 qu'elle a été munie d'un lieu de spectacle, d'une place gazonnée et d'une librairie. Yi Hyun, la responsable d'un design de la ville, a expliqué que l'île de Nodel a vu le jour en tant que complexe culturel englobant la nature, la musique et les livres et qu'au début de cette année, le quai est devenu une marina après avoir été longtemps délaissé. Selon elle, la mise en service du navire de croisière a été promue de manière à ce que cet espace soit plus accessible aux citoyens et plus convivial. Le quai de l'île a récemment été rénové comme une œuvre d'art dans le cadre d'un projet intitulé « Séoul est une galerie d'art ». Une énorme lune artificielle a été installée avec une aire de repos et une petite salle de spectacle. La lune d'un diamètre de 12 mètres émet de la lumière par 45 000 trous en figurant parfois un croissant de lune ou une pleine lune.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est Taïwan, qui prévoit d'indemniser toute personne qui aurait des effets secondaires de la vaccination contre le COVID-19. Selon le journal United Daily News, ce dispositif a été annoncé la semaine dernière dans un briefing par le directeur général du Centre pour le contrôle des maladies. Dans le cas où une injection entraîne la mort ou un handicap grave faisant partie du niveau le plus élevé, les victimes pourraient toucher jusqu'à 6 millions de dollars taïwanais, soit environ 178 000 euros. Les habitants qui ont des symptômes anormaux après la vaccination pourront réclamer un dédommagement aux autorités sanitaires avec les dossiers nécessaires comme la photo de la partie où a été fait le vaccin. Un comité composé de 19 à 25 experts déterminera les réparations en moins de 6 mois. La demande devra être déposée au maximum 2 ans après l'apparition des effets indésirables et 5 ans après celle des dégâts. Nous nous dirigeons maintenant aux Philippines qui ont proposé récemment au Royaume-Uni et à l'Allemagne de faire don de vaccins contre le coronavirus en échange de l'envoi de personnel médical, dont des infirmières. D'après la chaîne singapourienne Channel News Asia, la directrice du Bureau des affaires internationales du ministère du Travail, Alice Visperasa, a affirmé que si les deux pays s'entendaient sur ce point, Mania était prête à lever la limite du nombre des travailleurs médicaux envoyés à l'étranger, qui est actuellement fixée à 5 000 par an. Toutefois, Londres a déclaré qu'il avait assez de travailleurs dans ce secteur et que le surplus des doses du vaccin serait partagé à travers l'initiative multilatérale COVAX Facility. Berlin, quant à lui, n'a pas encore donné de réponse officielle. Les Pokémon continuent à séduire les petits et les grands 25 ans après leur apparition. À en croire l'AFP, Pokémon Go, une de ces séries de jeux vidéo basées sur la réalité augmentée, a profité de la crise sanitaire du coronavirus et a rapporté 1 milliard de dollars de recettes les 10 derniers mois de l'année dernière. Un auteur spécialiste de la culture populaire japonaise trouve la raison de sa popularité dans les personnages attrayants et l'incarnation réussie du mécanisme combinant jeux vidéo et jeux de cartes. Les générations ayant grandi en regardant le dessin animé du même nom s'enthousiasment pour cette chasse aux monstres virtuels et n'hésitent pas à ouvrir leur portefeuille. Ayant vu le jour en 1996, Pokémon s'est inspiré de la traque et de la collection d'insectes des enfants japonais lors des étés chauds et humides. Déplaçons-nous en Chine qui abritera bientôt trois parcs d'attractions les plus réputés au monde. Selon le quotidien China Daily, la construction de Legoland Shanghai Resort sera lancée à la fin de cette année pour être inaugurée début 2024. Pour ces travaux, une enveloppe de 550 millions de dollars sera versée. Sa surface sera la plus large parmi les complexes de la même sorte dans le monde. D'un autre côté, un Universal Studio ouvrira ses portes à Pékin en mai prochain et à Shanghai, il se trouve déjà en Disneyland qui accueille des visiteurs depuis 2016. Jusqu'à présent, les États-Unis étaient le seul pays à abriter ces trois parcs de loisirs, mais l'empire du milieu tente de relever le défi en souhaitant attirer les touristes chinois. Notre voyage de cette semaine prend fin au Pakistan. La police de Karachi, la plus grande ville du pays, a déployé une unité armée de patins à roulettes afin de lutter contre la délinquance de rue. D'après Reuters, sélectionnés suite à des entraînements rigoureux, les 20 membres vêtus d'un uniforme complètement noir feront des patrouilles à compter de ce mois-ci avec des armes faciles à porter comme des pistolets. Le chef de l'unité a expliqué qu'il fallait une approche créative pour contrôler les vols à la tire et le harcèlement dans la ville. Un membre s'est déclaré content que le roller puisse être utile pour se rendre rapidement dans les petites ruelles dont l'accès était difficile auparavant. Un petit bémol dans ce concert de joie est que les policiers surcoûts ne pourront pas surveiller de nombreuses zones dont les routes sont en très mauvais état.
Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Kim Mon-joo au micro avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.